Bon, cela étant dit, et comme promis, nous allons rejoindre immédiatement notre ami à tous et à toutes, grand amateur de voitures, entre autres, c'est-à-dire Maître Jean-François Gay.
Salut Jacques.
Salut Jean-François.
Ça va bien?
Oh.
Oui. Bon, ben moi j'ai écouté le hockey ce soir. J'ai
ben c'est ça. C'est pour ça mon soupir de... Ouais.
Sauf qu'il faut dire qu'on est resté assis sur le bout de notre fauteuil jusqu'à la fin du match parce que...
Oui.
Les Canadiens ont passé proche de compter à la fin de la troisième période. C'était incroyable, là, le nombre de lancers, les opportunités qu'ils ont eues, mais malheureusement, je pensais bien que Caulfield était pour égaliser la marque, mais c'est pas arrivé.
Mais il est pas assez près de marquer quelques buts.
Et là là, oui, oui, oui.
On sent que c'est un marqueur né.
C'est un marqueur né. Et ma seule peur, moi, ce soir, c'était que les joueurs des Maple Leafs, là, peut-être qu'ils lui fassent un mauvais parti parce que c'est un jeune homme et il est un petit peu frêle, là, parce que.
Ben là, franchement, il a pas l'âge des adultes. Ben là, franchement, là. Jean-François.
Quoi?
Ben là, c'est, regarde donc.
Non.
Les grands gaillards de 6 pieds 4, 6 pieds 5, là, il aurait l'air d'une bande de l'âge de s'en prendre un petit joueur comme Caulfield.
Non, mais on est en série, Jacques. Tous les coups sont permis, souvent.
Oui, souvent, oui.
Ouais.
Alors, je vois que tu es un fin connaisseur également dans le monde du hockey. Alors, tu as bien raison, mais il va falloir que ce soit plus que passé proche.
Non, mais...
Il va falloir... Puis combien de fois les Canadiens, les joueurs, lancent vers le filet adverse et j'entends le commentateur, « Oh! Il a raté le filet! »
Oui.
Je peux pas croire que des joueurs rendus à ce niveau-là, c'est épouvantable le nombre de fois qu'ils lancent vers le filet, mais sont même pas capables de l'atteindre.
Effectivement,
si ça va-tu de prendre un filet de soccer?
Ouais, Montréal, si on regarde l'équipe cette année, surtout l'an passé, je pense plus à l'an passé, là. Cette année, je les ai un petit peu moins suivis, mais ils lancent souvent au filet, mais malheureusement, on n'a pas des grands marqueurs, donc...
Ils n'atteignent pas la cible.
Ouais. C'est ça qui arrive. Mais Carey Price, ce soir...
Ah, excellent.
Je suis pas un amateur de Carey Price, mais là, ce soir, je dois lui lever mon chapeau, parce qu'il a joué toute une partie.
Exactement. Ben voilà. Alors, meilleure chance la prochaine fois. Et bon, on sait jamais. Alors, on va le savoir assez vite, puisque le Canadien reprend le travail dès ce soir face aux Maple Leafs. Bon, revenons à nos moutons, Maître Gay.
Oui.
Nous allons, sur la chronique, prendre la route, bien sûr. Mais avant de nous parler des essais routiers, tu voulais nous parler un peu des voitures électriques au Québec. Bon, est-ce qu'on peut dire que... je sais que le gouvernement a des objectifs à atteindre. On est-tu parti pour ça, là?
Bien, on est parti pour ça, oui. C'est sûr que la pandémie, hein, on parle souvent de la pandémie... On lui attribue beaucoup de choses à la pandémie, mais c'est sûr que en 2020, on pensait dépasser le cap des 100 000 véhicules immatriculés, les véhicules électriques au Québec en 2020. Par contre, il faut l'attendre, là, parce que ça vient de se faire. On apprend que depuis le 30 avril dernier, là, les dernières nouvelles qu'on a eues, bien là, écoutez, il y a au moins 102 380 véhicules légers qui sont immatriculés maintenant au Québec, des véhicules électriques. Et il y a aussi 186 véhicules lourds. Les véhicules lourds, ben, j'imagine qu'on fait référence notamment à des autobus, des genres de véhicules comme ceux-là.
Oui.
Et les objectifs du gouvernement du Québec, ben, c'est d'avoir un parc automobile de véhicules électriques de 600 000 unités en 2026. 2026, c'est dans 5 ans. Et en 2030, on parle de 1,5 million. Ça, c'est pas les ventes, là. On parle de véhicules immatriculés au Québec. Ben, écoutez, moi, je pense que c'est réaliste, mais de là à dire qu'en 2035, comme certaines sources avancent, qu'il y aura plus de véhicules à essence qui vont être vendus au Québec, je me risquerais pas à dire ça parce que c'est un peu loin.
Oui, oui.
Il peut se passer tellement d'affaires. On a vu là qu'est-ce qui s'est passé depuis un an et demi là. Donc,
tout cas, on peut toujours se péter les bretelles, passe-moi l'expression. Au Canada, nous sommes quand même, c'est au Québec où il se vend le plus de voitures électriques.
Oui, c'est au Québec. C'est ici que le plus de véhicules immatriculés. En deuxième position, c'est l'Ontario, hein. Puis nécessairement l'Ontario, on s'entend qu'ils sont le double de la population du Québec. Et en troisième position, vous avez la Colombie-Britannique, qui ont quand même, si on regarde là, le profil là, des des gens du nouveau de la Colombie-Britannique, là, ils ont une tendance un peu environnementaliste, une grande tendance environnementaliste comme au Québec.
Oui. Mais il faut dire qu'ici, quand même, on est parce que c'est souvent une question d'argent. Hein, c'est l'argent qui mène le monde, c'est des fois l'argent qui motive nos décisions. Il y a une chose qui est assez évidente par rapport aux autres provinces, c'est au Québec quand même qu'on est le plus généreux avec les gens qui achètent une voiture ou un véhicule électrique.
Bien sûr, parce que le gouvernement du Québec donne un rabais de 8 000 $
quand même
pour les véhicules neufs, là, les véhicules électriques. Il y a certains hybrides rechargeables aussi qui ont une subvention de 8 000, je pense notamment au Toyota RAV4 Prime. Ça va en fonction de la capacité de la batterie. Toute la batterie est grosse, là, des hybrides rechargeables, à ce moment-là, ils ont le droit à un rabais de 8 000, et les hybrides rechargeables, là, qu'on vend avec des plus petites batteries, c'est 4 000 $.
Mm-hmm.
Mais pour vous donner une idée, c'est sûr qu'en Ontario, les ventes ont baissé drastiquement au cours depuis 2018.
Et pourquoi?
Parce que le gouvernement de Doug Ford a complètement aboli la subvention exagéré, je vous dirais peut-être, parce que la subvention ontarienne était rendue à 14 000 $. C'est beaucoup d'argent. Peut-être qu'il aurait dû peut-être amener ça au même plafond qu'au Québec.
Ben, comme couper la poire en deux, là, peut-être.
Et voilà. Mais finalement, en septembre 2018, ils ont le programme. Et en Colombie-Britannique, là, par contre, il y a un rabais aussi. Il y a un rabais de 3 000 $ du provincial, du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique pour les véhicules électriques, puis 1 500 $ pour les véhicules hybrides rechargeables.
Mm-hmm.
Et ça, faut pas oublier non plus le gouvernement fédéral qui donne une subvention de 5 000 $ pour les électriques, 2 500 $ pour les hybrides. Mais on s'entend, là, que comme les véhicules Tesla, je pense à le modèle S, Porsche Panamera, là, c'est pas inclus dans les subventions parce que ça, c'est des véhicules qui se vendent pratiquement 100 000 $. On parle toujours de véhicules aux alentours de 60 000 $ et moins, là.
Ouais.
Ouais.
Mais, dans les éléments que tu m'as fait parvenir, je serais curieux de voir, parce que j'ai pas l'impression que tu parles de la province productrice de pétrole, comme l'Alberta, par exemple. Je me demande si en Alberta, on en vend des véhicules électriques. On sait que les gens sont là-bas très dépendants de l'industrie pétrolière. Alors, est-ce que au Manitoba, pas au Manitoba, mais en Alberta, pas sûr que la voiture électrique ait la cote?
Ben, c'est sûr que les véhicules électriques n'ont pas la cote. J'ai pas les statistiques. Mais pour vous donner une idée, la Saskatchewan, Manitoba, Colombie-Britannique, l'Alberta, en Saskatchewan, il y a environ 400 véhicules électriques qui sont immatriculés là-bas. Et le gouvernement de Saskatchewan, pour vous démontrer qu'ils sont pas vraiment en amour avec les véhicules électriques, ben, pour le budget, là, qu'ils viennent de voter il y a pas longtemps au Parlement, ils ont, à partir du mois d'octobre 2021, ils vont avoir une taxe annuelle de 150 $ à tous les propriétaires de véhicules électriques, sous prétexte que les gens qui se promènent en véhicule électrique ne contribuent pas à l'entretien du réseau routier en ne payant pas les taxes sur le carburant.
Ah, mon Dieu!
Ouais. Ouais. Et par contre, l'île du Prince-Édouard, Jacques, dans le dernier budget 2021-2022, ils ont voté, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de monde là, à l'île du Prince-Édouard, il y a moins de 200 000 habitants, il va avoir un rabais de 5 000 $ pour les véhicules électriques et 2 500 $ pour les véhicules hybrides rechargeables.
Parfait. En terminant là-dessus, j'imagine que la Tesla est toujours le modèle le plus populaire.
Au Québec, oui. Puis je vous dirais même dans le monde, là, puis on parle de la Tesla modèle 3. Si on regarde, là, les 10 véhicules les plus vendus au Québec, là, en 2020, ben, vous avez la Tesla modèle 3 en première position. Deuxième, Chevrolet Bolt. Troisième, le Kona électrique. En cinquième, la Hyundai Ioniq électrique. La cinquième position, le Tesla Model Y. La Nissan Leaf, la Volkswagen e-Golf, le Kia Niro, le Kia Soul et l'Audi e-tron.
Excellent, ben parfait. Alors bravo aux Québécois quand même, qui ont peut-être une conscience environnementale plus développée que certaines autres provinces pour toutes sortes de raisons. Bien, on va faire une pause et ensuite, Jean-François, on s'embarque, sans jeu de mots, dans les essais routiers. Alors, Jean-François?
Oui?
Première question.
Oui, monsieur.
Parce qu'on va d'abord parler de la Volvo S60. Alors, ma première question, Jean-François, est-ce que ça sent encore le smoke meat dans ta voiture?
Non, ça sent le cuir neuf.
Bon, excellent.
Mais les smoke meat, ça... Ouais, je te remercie pour le smoke meat.
Oui, parce que Jean-François est venu me montrer ce modèle vers l'heure du midi. Puis quand il me fait ça, ben c'est parce qu'il a faim. Et il vient pas à 2 heures, il vient à midi. Alors je me suis dit, tiens, on va aller chercher quelque chose à manger. Mm-hmm. Et nous sommes allés dans la belle province la plus près, mm-hmm. se chercher des patates frites et de la viande fumée.
Ouais. Alors, et on ne mange pas ça tous les jours, on mange de la salade le reste de la semaine.
Mais on a acheté de la viande fumée maigre.
Ben oui.
Oui, on fait attention quand même. Alors, et j'en ai profité, effectivement, pour essayer cette Volvo S60. Alors, j'ai trouvé ça très agréable à conduire. Est-ce que, de ton côté, tu as aimé conduire cette voiture?
Ben, j'ai bien aimé la S60 pour situer les gens, on avait le modèle d'entrée de gamme. Puis quand je dis le modèle d'entrée de gamme, par contre, c'était la traction intégrale parce que cette voiture-là est disponible avec la traction avant, quand on parle de la version d'entrée de gamme. Par contre, le moteur T5, ça, c'est-à-dire, c'est un moteur turbo, 2 litres. Ça, c'est l'appellation de ce moteur-là, qui développe 250 chevaux. Et c'est parce qu'il n'y a plus de version T6. La version T6, c'était toujours le 4 cylindres turbo qui était disponible les années antérieures avec un compresseur plus un turbo. Ça développait 316 chevaux. Ce moteur-là est toujours disponible, mais il faut opter pour la version familiale, c'est-à-dire la V60. Mm-hmm. Dans le cas de la S60, il y a aussi un moteur là hybride rechargeable. À ce moment-là, ce moteur-là, c'est toujours le 2 litres turbo avec un turbo, un compresseur, plus une motorisation hybride rechargeable. C'est très complexe, puis c'est très dispendieux. Le moteur développe 400 chevaux ou 415 chevaux, dépendamment de la version. Et côté prix, Jacques, là, juste te donner une idée, tu te demandais combien cette voiture-là se vendait. Ben, écoutez, ça commence à 45 000 $ on va arrondir. Il y a 3 versions disponibles, Momentum, Air Design, Inscription, puis le modèle Inscription, ça, c'est 53 900. Mais si, Jacques,
oui.
tu avais l'intention de t'acheter une motorisation hybride avec cette voiture-là, mais là, le prix augmente à 68 000 $ de base.
Mm-hmm.
Jusqu'à 82 000 $. C'est là que moi, je décroche un peu.
C'est pour ça que je me suis contenté de l'essayer pendant 15 minutes, pas plus.
Oui, mais tu sais, on fait la promotion des voitures électriques, des voitures hybrides rechargeables. Puis là, mais regardez la différence de prix. Là. On passe de 45 000, de 54 000, si on prend la version la plus luxueuse, là, avec le moteur à essence, atmosphérique, ben, le moteur turbo. Puis là, vous devez payer 68 000 $ pour avoir un hybride rechargeable. On s'entend là que cette voiture-là...
C'est un peu décourageant.
C'est décourageant. Puis on s'entend que cette voiture-là n'est pas éligible à cause du prix au rabais gouvernemental de 4 000 $. Cela dit, tu sais, il y a du travail à faire là-dessus de la part des constructeurs, parce que, tu sais, les consommateurs sont prêts à faire leur bout de chemin, mais je ne sais pas de quelle façon qu'ils vont être capables de réduire le prix.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on veut bien suivre la mode, mais on veut pas non plus, financièrement parlant, là, être pris au collet parce que les voitures se vendent à des prix de fou. Là.
Effectivement. Et ça peut vous rassurer, si admettons, vous regardez pour une Volvo S60 avec un moteur turbo de 250 chevaux, bon, la consommation, je vous dirais, là, c'est aux alentours de 8,5 litres au 100 km. Et ça, c'est combiné. Donc, sur l'autoroute, là, vous êtes capable de faire varier la consommation selon la vitesse, bien entendu, entre 6,5 et 7,2 litres au 100 km. Donc, c'est intéressant,
ouais.
ça.
Ben oui. En tout cas, on parle d'une Volvo, évidemment. C'est sûr que c'est pas donné, si on le sait au départ. Mais il y a quand même des points positifs au niveau du design. Hein, la finition chez Volvo, c'est toujours impeccable.
C'est une très belle finition, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Oui.
Et si on regarde aussi la solidité là du châssis, de la carrosserie, tout ça, c'est assez impressionnant. Puis les sièges, hein, tu le sais comme moi, là, t'as pu t'asseoir à l'intérieur du véhicule, des sièges très très enveloppants, très confortables, très douillets. Par contre, c'est pas facile d'accéder aux sièges. Je sais pas si t'as remarqué, t'es un grand gaillard.
Non, j'ai pas eu de problème, moi.
Non. T'es plus flexible que moi. Parce que les portières à l'avant, on s'entend, puis les portières arrière sont pas très grandes. L'ouverture est pas très grande.
En fait, j'ai eu de la misère, je trouvais ça plus difficile de sortir du véhicule. C'est peut-être parce que je suis pas habitué de conduire un véhicule. On parle d'une berline, donc la voiture est beaucoup plus basse qu'un VUS, par exemple. Alors ça, je suis moins habitué à ça maintenant, là.
Oui, t'as raison.
T'es obligé de faire un effort supplémentaire là, pour sortir du véhicule.
Oui, surtout que les sièges avant sont très enveloppants. Donc, oui. Une fois qu'on est installé dans le siège, là, disons que on est tellement bien soutenu par les supports latéraux, que ce soit au niveau du dos, au niveau des cuisses, tout ça, ben c'est, à un moment donné, c'est difficile de sortir de là.
Mm-hmm, exactement. Mais à part ça, évidemment, toi, tu t'es assis en arrière parce que, bon, COVID oblige, on s'éloignait de plus en plus, le plus possible, et ben en arrière, c'est pas toujours le cas, hein, mais là, les places sont confortables.
Oui, les places sont confortables, et malgré que la ligne de toit soit très bas, hein, pour donner l'impression pour que la voiture soit très profilée. La ligne de toit est basse vers l'arrière. Malgré tout ça, moi, je vous dirais là, qu'il n'y avait pas de problématique. Là. Des fois, on peut s'accoter la tête au plafond dans ce genre de berline-là, mais c'était pas le cas dans ce cas-ci.
Mmh. Alors, ça fait le tour pour la Volvo S60.
Côté négatif, moi, je vous dirais, oui, le système multimédia qui est un peu compliqué.
Mmh.
La fiabilité hein, chez Volvo, c'est toujours un peu incertain. Et le coffre à bagages, il manque un peu de profondeur. Mais cela dit, il est quand même assez vaste. Mais si vous avez des objets à transporter qui sont nécessaires, ils doivent pas être très gros parce que l'ouverture du coffre, là, une fois que le couvercle est ouvert, là, c'est pas un modèle à haillons, on s'entend.
Faut que je te raconte, ça fait 3 jours que je suis à pied.
Ah bon?
Pris ma voiture, en fait, c'est samedi, pour aller au dépanneur. J'aime ça aller au dépanneur.
OK.
On va m'acheter des gratteux.
Ben oui.
J'ai des amis là-bas au dépanneur, on gratte. Okay. Non, mais sérieusement, alors j'ai pris ma voiture. M'a donné sur mon tableau de bord, je reçois un message. Capteur d'huile défectueux.
Bon.
Là, ben, je me suis dépêché de revenir à la maison. J'ai regardé, puis là, ben, on dit arrêter la voiture. Ben, c'est un peu bizarre. Cesser de conduire la voiture et venez chez le concessionnaire le plus rapidement possible. Mais chanceux comme je suis, moi, c'est comme quand j'ai un mal de dents. Ça m'arrive toujours quand les dentistes sont en vacances pendant 2 semaines et demie, à Noël ou à Pâques, ou des trucs comme ça. Alors, évidemment, pas de voiture samedi, pas de voiture dimanche, pas de voiture non plus lundi. Là, je vais appeler aujourd'hui. Je vais d'abord leur demander, est-ce que je peux prendre ma voiture et me rendre chez vous? Parce que moi, si j'ai un problème d'huile, puis le moteur brûle, entre chez moi et le garage, qui c'est qui va être responsable?
Ben, c'est sûr, surtout que tu es averti que tu avais une problématique.
Ben, je ne les ai pas encore avertis, c'était congé.
Ben là, mais là, maintenant, ils sont au courant, maintenant qu'on en parle à la radio.
Oui.
Mais cela dit, je vous dirais, moi, que c'est rendu tellement sophistiqué, Jacques, là, au niveau des détecteurs là, des problématiques, tant au niveau du moteur, surtout le moteur. Les détecteurs vous informent immédiatement. Pourquoi? Parce que les manufacturiers veulent pas prendre de chance. Parce que c'est tellement coûteux maintenant à réparer. Tu sais, mettons, remplacer un moteur, c'est rendu extrêmement dispendieux. Donc, à la moindre anomalie, il va y avoir un capteur qui va indiquer qu'il y a une défectuosité.
Alors, tu es en train de me dire que c'est peut-être pas si grave que ça.
C'est peut-être pas, non, c'est peut-être pas grave du tout.
Mmh.
Parce qu'il fait une époque, on avait juste...
Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant pareil.
Ben oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais c'est que ça fonctionne comme ça maintenant. Que voulez-vous?
Bon, en tout cas, je vais voir ce qu'ils vont me dire aujourd'hui, si je réussis, bien sûr, à les rejoindre. Bon, voilà.
C'est... Volkswagen, j'ai essayé une voiture Volkswagen cette semaine.
Tu as essayé la Volkswagen Golf?
Ben oui.
Et puis?
Puis, ça faisait longtemps que j'avais pas mis la main sur cette voiture-là, puis j'étais bien content. Et,
je pensais qu'il n'en faisait plus, moi, ici, pour le Québec.
Ben, c'est la dernière année. Ah, en 2021, là, c'est l'année du signe. Et 2022, la Golf va revenir, mais seulement en version GTI, pas en version la Golf, en version R. Donc, c'est traction intégrale avec une grosse motorisation. C'est un peu désolant tout ça, parce que la Golf, la nouvelle génération de Golf est vendue en Europe. Toujours vendue en Europe. Je regardais justement tantôt le nombre de modèles que Volkswagen offre en Europe par rapport à chez nous. C'est ridicule, là. Ils ont pratiquement le double de modèles. Que ça soit la Jetta, la Passat qui est offerte en familial, t'as la T-Roc, t'as le Touareg qui est encore offert là-bas. En tout cas, la classe n'est pas vendue en Europe. Il y a la Polo qui est toujours vendue en Europe. Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, chez nous, ben, disons que c'est une année très difficile pour les petites voitures, parce que...
Ben, c'est ça que je trouve plate, moi. On dirait que les concessionnaires, les constructeurs pensent qu'au Québec, on a tous les moyens d'avoir des voitures très chères, parce que la Volkswagen Golf, c'est une voiture quand même accessible. Tu peux en avoir une pour 23 000 $.
C'est pas si mal, mais c'est sûr que... Moi, je te dirais que c'est un peu cher, parce que si on regarde ailleurs...
Ah oui?
Ben, c'est pour à cause de la grosseur de la voiture, parce que la Golf, là... Il faut embarquer dans une Golf puis comparer ça avec une Honda Civic notamment ou une, je sais pas moi, la nouvelle Toyota Corolla Hatchback, la Mazda 3, je vous dirais que la Golf est petite. La Golf, c'est devenu pratiquement une sous-compacte. C'est plus une compacte avec le temps. Parce qu'une fois qu'on est assis à l'intérieur, on se rend compte que le coffre est minuscule. Hein, le coffre, même, c'est sûr que si on rabat les sièges arrière, le coffre s'agrandit, mais cela dit, le coffre est pas très grand, même si c'est un modèle à haillons. Les places avant sont correctes, les places arrière, ça pourrait être un petit peu plus grand, mais ce qui est regrettable, c'est que c'est une voiture mythique. Mmh. On avait le Beetle aussi, qui se vendait bien quant à moi. Il nous enlève le Beetle, il nous enlève maintenant la Golf. Bon, ils vont remplacer ça probablement avec des voitures électriques, parce que c'est ça que les gens veulent, mais les voitures électriques, comme on disait tantôt, c'est pas donné. Puis la Golf, elle a une belle histoire au Québec, hein, tu te rappelleras de la Golf, la Rabbit.
Ouais.
Une voiture qui a pratiquement 40 ans, donc...
Ouais. Ben, on aura l'occasion d'y revenir, si c'est possible, Jean-François. Il faut s'arrêter. Je précise que tu seras de retour après la pause. Alors, si vous avez, chers amis, des questions pour Jean-François, c'est drôle cette nuit, je m'attends à ce que ce soit tranquille, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, si jamais... Vous avez des questions pour Jean-François, n'hésitez pas à téléphoner. On vous donne les numéros de téléphone à composer. Alors, toujours en compagnie de Maître Jean-François Gay, c'est la chronique Prendre la route, dernier segment de l'émission. Alors, il y a déjà quelques personnes qui sont en ligne. Alors, oui, ben c'est le but de l'exercice. Alors, si vous avez des questions pour Jean-François, n'hésitez pas à nous téléphoner. Toujours là, Jean-François?
Ben oui, je suis toujours là.
Bon, excellent. Alors, on va aller rejoindre immédiatement Monsieur Richard, je crois.
Oui.
Oui, on vous écoute, oui. Monsieur Richard.
J'aimerais avoir votre avis pour l'achat d'une Kia Forte, soit la Forte ordinaire ou la Simporte Limited 2021. Savoir les aspects positifs et négatifs de ce véhicule.
Bon, mais vous hésitez entre la berline et le modèle à haillons, c'est ça?
Entre le modèle 4 portes, la berline, ou le modèle à haillons, c'est ça.
Ben, c'est sûr que personnellement, moi, j'irais avec le modèle à haillons parce que c'est une voiture qui est quand même assez spacieuse, donc ça pourrait remplacer facilement l'espace intérieur là, d'un petit VUS. Si vous avez de la famille, si les enfants font du sport, vous devez reconduire les enfants à l'aréna éventuellement, ces choses-là, beaucoup d'espace. Deuxième chose aussi, il faut toujours garder la garantie des véhicules, toujours une très bonne garantie, 5 ans ou 100 000 km. Donc, c'est pas à dédaigner. Et côté design, là, je vous dirais que Kia a fait beaucoup de progrès, que ce soit design extérieur, l'aménagement intérieur, c'est des véhicules qui sont mieux finis, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Regardez-vous pour le petit moteur 2 litres ou le moteur turbo?
Le moteur turbo, le limited, le modèle tout équipé.
Oui. Ben, c'est sûr que le moteur turbo, si on regarde fiabilité, tout ça, on s'entend, vous allez être garanti 5 ans ou 100 000 km. Le moteur turbo, des fois, c'est au niveau fiabilité, il peut avoir des petits problèmes. Mais si vous regardez vraiment la version la plus luxueuse, vous n'avez pas le choix. Sinon, peut-être, regardez pour une version intermédiaire, puis y aller avec le 2 litres, là, avec le moteur atmosphérique.
OK, puis je sais qu'il y a eu beaucoup de négativité au niveau de cette marque-là dans les dernières années. Est-ce que c'est rétabli ou ben non, c'est une marque, c'est peut-être un de mes derniers véhicules, je viens de prendre ma retraite. Je peux passer une seule, donc c'est un achat que je prévois de 5-6 ans facilement.
Ben écoutez, je sais pas qu'est-ce que vous avez entendu là comme propos négatif sur cette marque-là. La seule chose que je peux vous dire, moi, c'est que si on regarde notamment J.D. Power, qui font eux autres des études assez exhaustives, là, assez complètes sur la fiabilité des marques, puis des marques de véhicules, et puis Kia s'est classé de mémoire sur le... En deuxième position, je pense, là, au cours pour le dernier sondage sur la fiabilité. Puis quand ils font des sondages de fiabilité, eux, ils regardent les trois dernières années. Donc, c'est pour les modèles 2018, 2019, 2020. Donc côté fiabilité, là, moi, je vois pas vraiment, là, il y a des marques beaucoup pires, là, que Kia, là, actuellement.
OK. Est-ce que Kia prévoit de changer le modèle, soit l'année prochaine?
Non.
Ben non, c'est un modèle que le Forte va pour garder le même design pour les quelques années à venir.
Quelques années encore, parce que je vous dirais, c'est sûr que Kia, c'est une marque qui va, tu sais, pour amener toujours la nouveauté, la clientèle, ils vont souvent redessiner leur modèle. Habituellement, un modèle vit à peu près 5 ans avant d'une refonte complète, là, règle générale, là, dans l'industrie. Kia, peut-être des fois, c'est 3 ans, 4 ans, dépendamment si Hyundai aussi, c'est la même chose. Surtout si le modèle a de la difficulté à se faire vendre, à trouver des acheteurs. Mais pour vous rassurer, la Forte, ça fait pas longtemps qu'elle a été redessinée. Fait que moi, je pense que ce modèle-là va durer encore, là, avant une refonte majeure, un bon 4 ans, peut-être 5. Là.
Ah, ben c'est parfait ça. Merci beaucoup de vos commentaires. Ça va m'aider pour ma prochaine achat.
Parfait, monsieur, et bonne retraite.
Merci beaucoup.
Merci, passez une très bonne nuit. Merci d'avoir téléphoné. Nous allons parler maintenant, je crois, à monsieur Sylvain. Monsieur, ça a un peu le téléphone, monsieur Sylvain.
Oui, bonsoir
à vous. Oui, bonsoir à vous.
Vous m'entendez?
Oui, on vous entend bien maintenant, oui.
OK. Moi, j'ai une question. J'ai entendu parler, parce que moi, je suis de l'Alberta présentement. Je suis camionneur en Alberta. J'ai entendu parler qu'ils vont faire un test entre le corridor Calgary et Edmonton d'un nouveau camion électrique, un gros camion électrique, sans conducteur.
Oh!
Mm-hmm. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça?
Non. Non, mais peut-être vous pouvez nous expliquer ça, vous, ce que vous en savez, puis on pourrait éventuellement faire nos petites recherches.
Ben moi, ce que j'ai entendu, c'est que là, présentement, entre le corridor Calgary et Edmonton, ils sont tous en train de refaire l'asphalte à neuf. Ce que j'ai entendu aux nouvelles, ça fait un bout de ça, je te dirais peut-être deux, trois mois. Ils veulent essayer le nouveau camion électrique. Je pense qu'il va c'est par Mercedes que ça va être fait. Je suis pas sûr si c'est Mercedes ou quoi, là, mais il me semble que c'est ce que j'ai entendu. Qui vont mettre le nouveau camion avec une charge, tout le kit, le 53 pieds de trailer, tout le kit, mais qui va être contrôlé manuellement ou électriquement, je sais pas comment ça marche, là, mais j'ai entendu parler qu'il devrait faire ça cette année, là, puis jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, en 2022.
Bon, mais moi, j'ai pas entendu parler de ça. En vous écoutant, je faisais une petite recherche sur Internet. J'ai rien trouvé. C'est sûr qu'ils font ça sur un... J'imagine, c'est pour ça qu'ils refont l'asphalte, qu'ils vont refaire aussi le lettrage là, au niveau du revêtement, parce que c'est bien important. Parce qu'au Québec...
Ils vont mettre des bornes et des affaires de même, là.
Oui, parce qu'au Québec, moi, souvent, là, on parle beaucoup de la conduite autonome, conduite semi-autonome, puis je regarde notre réseau routier, tu sais, il n'y a pas juste des nids de poules dans notre réseau routier. Souvent, il y a au niveau du lettrage, au niveau des lignes au sol, là, il y a des endroits qu'il n'y en a plus. Puis souvent, pas souvent, mais les systèmes semi-autonomes, ça fonctionne avec les lignes au sol, là. Hein? Donc, c'est pour ça que moi, je m'interroge beaucoup sur la sécurité des voitures semi-autonomes. Puis pas juste pour les voitures semi-autonomes, on parle aussi, règle générale, là, si on a un message à passer au gouvernement du Québec, c'est bien beau vouloir faire des ponts à Québec, puis tout ça, des tunnels, c'est-à-dire, mais peut-être qu'entretenir le réseau actuel aussi, ça serait une bonne idée, là, parce que à certains endroits... Quand il n'y a pas de lettrage, ça peut être très dangereux. Là.
Sur le test qu'il parlait, j'ai écouté ça comme vite fait de même. J'ai pas porté plus attention. Là. Mais il disait comme quoi qu'il était pour avoir un véhicule en arrière.
C'est-à-dire, monsieur, moi, ce que j'ai retrouvé, là, c'est que le gouvernement de l'Alberta, puis ça date de peut-être 2-3 ans à peu près, là. Et j'ai pas l'impression qu'on va aller de l'avant immédiatement, là. Mais de ce que j'ai vu, le gouvernement de l'Alberta a manifesté son appui à une entreprise canadienne, l'entreprise TransPod, pour l'éventuelle construction de ce qu'on appelle un hyperloop. C'est un nouveau type de transport en commun. Dernier cri. Là, on parle de transport en commun, là. Là, on parle pas vraiment de transport de marchandises, là, dans lequel les passagers prennent place dans des capsules pouvant filer, imaginez-vous, jusqu'à 1000 km à l'heure. J'ai de la misère à croire ça.
Ouais, un peu, oui.
C'est-à-dire qu'on pourrait faire la navette Calgary. Vous, est-ce que vous passez souvent par là? Vous êtes de ce coin-là?
Oui, moi, je demeure à Calgary.
Bon, ben Calgary-Edmonton, ça vous prend combien de temps?
c'est 3 heures.
Trois heures? Mais là, avec dans la capsule, monsieur, là, c'est à peu près 30 minutes.
Oui, mais ça je pense que je n'avais déjà entendu.
Ça, c'est pour les passagers, évidemment, là, c'est ça.
Oui, entre Calgary et Edmonton, il y a un terre-plein entre les deux qui parce que tu as deux voies nord, deux voies sud, là. Puis il y a un terre-plein entre les deux. Ça, j'en avais entendu parler aussi qu'ils voulaient mettre un train rapide, là.
Mm-hmm. Et je sais qu'à l'Université de Calgary, on travaille également aussi sur le camionnage propulsé à l'hydrogène.
Oui.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait changer, évidemment, là, mais disons qu'on parle d'une autonomie de 700 km quand même. Là. Alors, oui. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Là.
Ah. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé encore. J'ai beau regarder, monsieur, là. Je ne trouve rien par rapport à ça.
J'essaierai de me renseigner, mais j'avais entendu ça aux nouvelles
partennes. Ben parfait. Alors peut-être qu'éventuellement ça va se faire, peut-être qu'on s'en va vers ça, peut-être que ça va revenir dans l'actualité. Et des fois, on lance des projets en l'air, puis pendant un certain temps, on les oublie. Hein. C'est comme le troisième lien à Québec.
Oui. On va juste en parler, mais on va l'oublier.
Oui, c'est ça. On est loin de la première pelletée de terre. Parfait, monsieur. Exactement. Merci d'avoir appelé.
Merci, bonsoir.
Merci, bonsoir et passez une bonne nuit. Là, il reste pas grand temps. Monsieur Stéphane, je crois.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, Stéphane. Rapidement, une question pour Jean-François.
Oui, moi, j'aimerais savoir... Moi, je possède une roulotte dont le poids est de 4800 livres.
Oui.
Puis, je me questionne, je regardais une camionnette...
Non, monsieur, il faudrait baisser le volume de la radio parce qu'il y a beaucoup d'écho dans votre coin, là.
Oui, je le baisse. Oui, moi, je regardais la camionnette Toyota Tundra. Puis, comment savoir au niveau fiabilité, la capacité de tir, comparé aux autres camionnettes, c'est un bon choix?
Ben c'est un bon choix. Vous regardez pour quelle année, vous? Un véhicule neuf ou d'occasion?
Un véhicule neuf.
Ah, ben la Tundra, c'est l'une des camionnettes les plus fiables de l'industrie. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que pendant que Ford, GM et Ram, là, eux, ils arrivent toujours avec des petites nouveautés, des nouvelles motorisations d'une année à l'autre, alors que le Tundra, lui, ne change pratiquement pas. Ben, ça fait en sorte qu'il consomme plus que les autres, par contre, parce que c'est toujours une transmission automatique à 6 rapports, alors que les autres camionnettes sur le marché, là, les camionnettes américaines, c'est des 8 et même des 10 rapports, 10 vitesses. Le Tundra va consommer plus, mais je vous dirais que le moteur 5.7 litres, avec la transmission à 6 rapports, le rouage intégral, tout ça, ça s'est beaucoup amélioré par rapport il y a une dizaine d'années, je vous dirais. Là.
Donc, Jean-François, c'est un bon choix, là.
C'est un bon choix, puis c'est amplement puissant pour traiter là, une roulotte là, de 4800 livres. Ça, il n'y a aucun problème.
Parfait, bon, monsieur. Ben, ça répond à votre question?
Oui, ça répond à ma question. Ben, merci beaucoup.
Parfait, monsieur. Merci d'avoir appelé. Passez une très bonne nuit. Alors, Jean-François, merci.
Ça fait plaisir.
On se reparle bientôt.
Ben oui.
Et on reviendra sur la Volkswagen Golf, Golf, c'est ça, oui, avec un peu plus de détails. Merci bien. Alors, bonne semaine. À bientôt.
Bonne semaine.
Merci. Parfait, on va faire une pause et ensuite, petit résumé de l'actualité. Éventuellement aussi, on commencera également notre tribune téléphonique. Alors, bonne semaine, bon mardi. Nous sommes aujourd'hui déjà le 25 du mois de mai.